Bonsoir, comment allez-vous ? Eliane Girard, la réalisatrice de cette émission, au bureau, nous a incité à regarder la série Mytho qui commencera jeudi prochain à 20h55 sur la chaîne Arte. Mytho se passe au milieu de nulle part, entre routes sans charme, abribus et pharmacies, dans un lotissement. Une espèce de maison plutôt défraîchie abrite une famille dont la maman est Marina Hans, alias Elvira. Elle est noyée sous les courses, le dîner des enfants, un mari à l'ouest, un patron sadique, des professeurs donneurs de leçons. Et cette calme Elvira qui a un charme fou, vous savez, celle à qui on a envie de dire quand elle a un petit coup de mou, allez, ça va, c'est pas le cancer non plus. Certes. Elle se démène pour tout le monde et tout le monde trouve ça normal. Pour se sortir de là, se présente un peu comme un chien croisé dans la rue, à qui on interdit la maison mais qui finit quand même par rentrer. Un mensonge, un bon gros mensonge. Si je vous parle de cette série dans Les Petits Bateaux, c'est que cette famille a trois enfants. Après avoir vu les deux premiers épisodes, ma fille a dit « Oh ben nous, du coup, après ça, on passe tout de suite au statut d'enfant modèle. » Et c'est juste. Et ça fait un bien fou. Voir ces enfants parfaits, mais ça ne nous était pas arrivé depuis qu'ils étaient tout bébés.
Bonjour, je m'appelle Azélie, j'ai 14 ans. Et je voudrais savoir si c'est vrai que les bébés savent naturellement compter. Merci, au revoir.
Bonsoir Azélie. Ghislaine Dehaene, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes directrice de l'équipe de neuroimagerie du développement à Neurospin. Est-ce que c'est vrai ou ça fait partie de ces lieux communs qui ne sont pas fondés, les bébés qui savent naturellement compter ?
Alors ça dépend de ce que vous entendez par compter. Un bébé ne va pas faire la différence entre 13 et 14. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il peut faire la différence entre des quantités, 4 points par exemple, versus 8 points. Il sait parfaitement là où il y en a le plus. Et oui, c'est pas étonnant. Les animaux aussi savent le faire en fait. C'est une capacité qu'on partage avec tous les animaux de savoir où il y a le plus d'éléments, à partir du moment où vous avez un peu un rapport de 1 sur 2. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien dans l'évolution, si vous avez deux arbres, un arbre avec 4 bananes et un arbre avec 8 bananes, il faut plutôt monter du côté où il y en a le plus. Ou si vous avez des lions qui courent après vous, deux groupes de lions, vaut mieux aller courir du côté où il y en a le moins. Donc les quantités font partie des connaissances qu'on appelle des connaissances noyaux, qui sont des connaissances qu'on partage avec les autres animaux et qui sont présentes dans le cerveau humain depuis le départ.
Qui servent à la survie.
Qui ont servi à la survie dans l'évolution, parce que la survie du petit bébé, elle est quand même pas dépendante de s'il peut faire des quantités. Mais ce qui est intéressant après, c'est que les humains, à partir de ces connaissances noyaux, sont capables de les développer et de faire du calcul exact, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus loin que 4 versus 8, mais de faire 4 et 5. Et pour faire ça, il faut apprendre à prendre chacun des éléments, à passer seulement une fois à travers eux et à leur donner un nom, qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va mettre beaucoup de temps à se développer. Il faut 3 à 4 ans avant que les enfants sachent compter. Alors, ce qui est très intéressant et que on vient de voir récemment en IRM, c'est que ces connaissances plus complexes, par exemple le calcul exact, vont quand même s'appuyer sur ces connaissances entre guillemets primitives, ces connaissances noyaux. Et ces régions de l'estimation du nombre, qui sont dans les régions pariétales, donc assez haut dans le cerveau à l'arrière, servent aussi pour les plus grands mathématiciens pour raisonner sur même des concepts mathématiques assez abstraits, de géométrie, d'algèbre ou d'autres concepts abstraits de mathématiques.
Et ça, vous le savez, Ghislaine Dehaene, grâce à l'image ?
Grâce à l'image, donc c'est une étude qu'a fait Marie Amalric et Stanislas Dehaene dans le laboratoire, où ils ont fait venir des grands mathématiciens, quasi des médailles Field ou des médailles Field, je me souviens plus très bien.
Ouais,
et ils leur ont posé des questions très complexes en mathématiques ou des questions très complexes en histoire. Et le groupe contrôle était des historiens de tout aussi grand niveau, mais qui n'avaient pas fait de mathématiques depuis leur lycée. Et quand on compare leurs réponses de ces volontaires, mathématiciens ou non mathématiciens, à ces questions mathématiques, on voit que les mathématiciens vont recruter ces régions pariétales, qui sont exactement les mêmes régions qui servent aux bébés à distinguer des quantités. Donc, ce sont ces régions qui permettent le démarrage de ces connaissances culturelles et à partir de là, les humains vont être capables d'élaborer, mais en utilisant ces connaissances de départ qui leur permettent d'apprécier le monde pour développer ces nouveaux concepts.
C'est génial. Comme quoi, on ne peut pas rouler un bébé. Je pense que le grand frère ou la grande sœur, s'il lui donne le petit paquet de gâteaux ou le gros paquet de gâteaux en se disant il ne s'apercevra pas qu'il n'y a que 3 barquettes au lieu de 6, et bien 6 en aperçoit.
Ah, s'il y a 3 et 6, il va s'en apercevoir.
Si lui,
3 et 4, il ne va pas s'en apercevoir.
Mais 3 et 6, oui.
Donc les enfants, vous donnez juste un peu moins. Ils ne vont pas s'en apercevoir.
Roulez subtil.
Roulez subtil.
En règle générale, les enfants sont beaucoup plus performants qu'on ne le pense. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Les enfants, justement, posent des questions sur notre répondeur et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Laure Murat est venue, ça fait très longtemps, petit bateau. Elle est essayiste et professeure à l'Université de Los Angeles. Elle a publié plusieurs livres dont vous trouverez les références sur le site des petits bateaux.
Allô, bonjour, je m'appelle Laure. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est un Français qui a inventé les hiéroglyphes. Au revoir et merci.
C'est la grande Laure qui va répondre à la petite Laure.
Laure, c'est grâce à l'expédition de Bonaparte.
Qui n'était pas encore Napoléon.
Et qui était parti en Égypte avec une commission de savants qui ont eu la très bonne idée, quand ils ont trouvé la pierre de Rosette, de faire ce qu'on appellerait un estampage, ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à une photocopie, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'encre sur la pierre de Rosette directement et ils ont appliqué ensuite une grande feuille de papier. Ce qui fait qu'on a eu comme une petite imprimerie, si vous voulez, et ils ont fait plusieurs exemplaires. Bien leur en a pris à ces savants, parce que Champollion, c'est là-dessus qu'il va travailler.
Depuis la France.
C'est sur ces documents-là. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expédition de Bonaparte? Les Anglais ont gagné et ils réquisitionnent, ils prennent tout court, toutes les antiquités qui ont été réunies par les savants, dont la pierre de Rosette, qui va partir directement pour le British Museum. Et il y a une chose qui est assez amusante, c'est que Champollion n'est jamais allé en Angleterre et il n'a donc jamais vu la pierre de Rosette.
Il n'était pas non plus en Égypte.
Alors, il est allé en Égypte, mais plus tard, et toutes ces découvertes, finalement, il les a faites grâce au travail considérable de tous ces savants, qui étaient environ 160, autour de Bonaparte, pendant 3 ans en Égypte. Et c'est grâce à ça, à la description de l'Égypte, qui va paraître ensuite sous l'Empire, qui va être le sommet, un sommet d'érudition sur cette Égypte qu'on connaissait finalement très mal, c'est là-dessus qu'il va travailler et qu'il va faire toutes ces découvertes.
J'ai cru que c'était mieux hier, alors j'ai reculé. J'ai cru pouvoir te plaire, est-ce que je me suis plantée? J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'était si long et infini, éphémère pourtant. Et ton souvenir c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai. Silence me fait douter, tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux. Je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais j'en veux encore, encore. Je te parle de souvenirs comme s'ils n'existaient pas. J'ai besoin de sentir quelque chose en moi. Je te parle de souvenirs et tu sais qu'ils en disent long. Fais-moi revenir, je ne dirai pas non. Oh, j'en veux encore. Thank you.
sais pas comment s'appelle cette façon d'agencer les mots quand l'un, a priori, ne va pas avec l'autre et le résultat est pourtant joli, comme « Vendredi sur mer », le titre de ce groupe. La chanson, c'est « Encore ». Oui, « Vendredi sur mer ». Eliane, encore elle, propose avec une très moyenne satisfaction le mot « paradoxe ». C'est vrai que ce n'est pas terrible. Avez-vous une meilleure idée ?
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question au petit bateau, eh bien vous faites le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Tommy et je voudrais savoir comment se fait-il que lors de la conception de l'être humain, la même cellule peut-elle fabriquer les oreilles, enfin tous les membres, sans pour cela se tromper. Merci beaucoup, je vous remercie.
Tommy, c'est nous qui vous remercions d'avoir téléphoné, Vincent Fleury. Alors, comment, pendant la conception de l'être humain, la même cellule peut-elle fabriquer les oreilles et tout le reste sans se tromper ? Vous êtes biophysicien, écrivain et directeur de recherche au CNRS.
Alors, bonsoir Tommy. Merci beaucoup d'avoir posé cette question, parce que c'est une des questions peut-être centrales dans la formation des animaux. Et en fait, ça fait très peu de temps qu'on a la réponse. Ça fait environ 3 ans. Qu'on a la réponse. Alors écoutez bien. La question que vous posez, c'est celle en fait de la robustesse. Comment ça se fait que, en gros, ça marche à tous les coups, la fabrication d'un organisme qui a beaucoup de parties différentes, qui sont toutes parfaitement mises en place, à partir de l'image qu'on se fait d'un ovule fécondé, qui en fait est une espèce de grosse patate molle. Donc la question, c'est comment une grosse patate molle peut devenir, à coup sûr, un ensemble d'organes très différents, ramassés, organisés dans un organisme. Donc, on imagine, c'est une question très difficile. Mais en réalité, même si c'est une question très difficile, le phénomène qui fait ça est très simple. C'est en gros, pour résumer, c'est l'effet manche de chemise. Alors, quand vous regardez une chemise, vous avez le poignet qui est rigide et vous avez la partie manche en flanelle au-dessus qui est molle. Et vous avez toujours un pli entre la partie rigide et la partie molle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la formation des embryons ? C'est que l'ovule, c'est une espèce de grosse patate molle, et dans les premiers jours pour un être humain, et dans les premières heures pour un animal comme un poisson ou un poulet, donc au tout début du développement, la patate molle, elle se divise, elle se casse en petits bouts, comme un carrelage, et chaque joint de ce carrelage, c'est comme une petite couture entre un poignet et une flanelle. Donc c'est une partie rigide et une partie molle. Et pourquoi il y a des parties rigides et des parties molles ? Parce que quand ça se divise, le tissu se différencie. Donc au cours des divisions, on voit apparaître les parties qui vont faire un premier organe, un deuxième organe, un troisième organe, séparées des précédentes par des coutures plus ou moins rigides. Donc on se retrouve avec une grosse patate qui ressemble à un tissu rond, mais sur lequel seraient dessinées des coutures qui préparent l'animal. Et au 19e jour chez les humains, mais au 3e jour chez les poulets, donc c'est à des moments très variables, cette surface qui est couverte de coutures se plie brusquement, et comme les plis sont exactement aux séparations entre les parties rigides et les parties molles, et comme chaque organe a sa propre mollesse ou sa propre rigidité, tout se plie en cascade, comme on plierait un drapé à la Léonard de Vinci, avec des organes qui vont se retrouver les uns à côté des autres, parfaitement encapsulés dans la peau du ventre et du dos. Et le résultat final, c'est une espèce d'origami qui est parfaitement maîtrisé et qui a lieu à coup sûr. C'est ça qui explique la robustesse. C'est un pliage systématique exactement aux bons endroits.
C'est absolument époustouflant parce que vous avez dit à coup sûr, ça se plie, ça se place.
C'est exactement, si vous imaginez par exemple un carton à déménagement. Vous avez un carton à déménagement, quand vous rabattez les couvercles, ça plie toujours exactement au bon endroit parce qu'il y a quelque chose de physiquement aminci, plus mou, à l'endroit où le carton doit plier. Ben, c'est exactement comme ça, les embryons. C'est une espèce de grande galette molle dans laquelle il y a des coutures qui séparent en fait les plans de division cellulaire et qui, en quelque sorte, prédisposent la plaque molle à plier. Et ensuite, les plis ont lieu en cascade. Alors, ce qu'on a découvert dernièrement, c'est-à-dire au mois d'août 2019, c'est que non seulement les plis sont prêts à plier, mais en plus, le premier qui plie entraîne tous les autres. Donc, en fait, ça a lieu en cascade de façon automatique. Une fois que ça démarre, ça s'enchaîne.
Il donne le top départ.
Voilà.
Quand vous dites « on a découvert », c'est qui ?
C'est moi.
C'est vrai ?
Oui, en fait, bon, enfin, je crâne un peu. C'est mon équipe. Ça, c'est quand même le travail de plusieurs dizaines de personnes pendant 15 ans. Et là, au mois d'août 2019, on a fait une publication là, qui a été reprise par le CNRS. Enfin, il y a eu des communiqués de presse là-dessus. En fait, on a montré que ce mécanisme de pli, on peut l'accélérer d'un facteur 10 à 100. On voit bien que chez certains animaux, le développement est beaucoup plus rapide que chez d'autres animaux. C'est pas très clair pourquoi. Mais en fait, quand on prend les embryons avant qu'ils aient plié, si on va leur donner des petits chocs électriques, très très légers, hein, et ben en fait, ça peut accélérer la cascade de plis entre un facteur 10 et 100. Ça peut aller 50 fois plus vite, en fait.
Ah, c'est pas mal, on pourrait réduire un peu la grossesse.
Alors, le but, c'est pas de réduire la grossesse, mais le but, ce serait, bon, d'abord de comprendre ce qui se passe, mais ensuite d'essayer de refaire des mains ou des pieds ou des morceaux de reins en contrôlant et en stimulant les tissus pour arriver à reproduire ces séquences de plis de façon, disons, déterminée avec des outils d'ingénieur.
Vous pouvez réécouter cette réponse de Vincent Fleury par franceinter.fr. C'est une idée idiote de réduire la grossesse que j'ai eue parce qu'un bébé, c'est beaucoup moins de travail dedans que dehors. Bien voilà qui nous réveille, c'était les B-52s. Alors, dans les petits bateaux, toujours à propos des mots qui ne vont pas habituellement ensemble, Julien Dumont, à la prise de son, propose paronomase. Mais je ne sais même pas ce que c'est, Julien, paronomase. On dit un ou une ? Une. Je crois que cette équipe me fatigue.
Bonjour, je m'appelle Pablo et j'ai 7 ans. Et je voudrais savoir à quoi sert un président. Merci de me répondre et au revoir.
À quoi sert un président ? Demande Pablo Bruno Daugeron, professeur de droit public à l'université Paris Descartes, co-directeur du blog Ius Politicum et auteur d'un livre pour les étudiants.
Pour les étudiants plutôt.
Ou pour le grand public, mais averti, on va
averti,
dire.
Averti, voilà.
Édité chez Dalloz, la notion d'élection en droit constitutionnel. À quoi sert un président ? Demande Pablo.
Très vaste question, Pablo, mais c'est une question très, très pertinente. Alors, j'ai envie, pour partir de l'exemple français, de faire une opposition entre la théorie et la pratique. Dans la Constitution française, le président de la République a des fonctions très particulières. Elles sont définies donc par un texte qui s'appelle la Constitution et un article qui s'appelle l'article 5. Et que nous dit l'article 5 de la Constitution ? Il nous dit que le président de la République, c'est trois choses. C'est un arbitre, un gardien et un garant. L'arbitre de quoi ? Bien, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, garant de quoi ? De l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Bon. Et donc, on voit que dans la Constitution, le président de la République, c'est plutôt un homme qui se situe au-dessus des partis et qui est là, en quelque sorte, pour incarner l'État ou incarner le pays, être une espèce d'arbitre ou de père, en quelque sorte, de la nation, qui doit veiller sur les grands enjeux et surtout les grands intérêts nationaux. Ça, c'est son rôle en théorie. Bon. Et en pratique, en France, son rôle est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement l'arbitre qu'on voit, mais il est beaucoup plus un acteur. On a eu tendance à dire qu'il était même parfois un capitaine et qu'il ne va pas simplement veiller aux grands intérêts lointains de la France, l'arbitrage, l'indépendance nationale, mais qu'il va devenir véritablement un gouvernant. Alors, ça n'est pas le cas dans tous les pays, puisque le président de la République a cette opposition en France. Dans d'autres pays, il aura plutôt tendance, s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, à être quelqu'un qui veille de loin sur les grands intérêts du pays, sans se mêler du gouvernement. Et puis en France, au contraire, on va avoir un président de la République, en réalité à cause de son élection au suffrage universel, qui va davantage être présent pour défendre un programme, défendre des orientations politiques et se mêler dans la bataille.
Bruno Daugeron, pour qu'il soit vraiment un arbitre, il faudrait qu'il n'appartienne à aucun parti.
Oui, en théorie, vous avez parfaitement raison. Il faudrait qu'il n'appartienne à aucun parti. Or, c'est exactement le contraire. C'est plutôt comme ça qu'avait été pensée la Constitution de 1958, notre 5e République, dont on a fêté les 60 ans cette année. Il ne devait pas intervenir. Et puis, la vie politique étant ce qu'elle est, l'élection au suffrage universel étant ce qu'il est, les attentes des électeurs envers le président et son programme sont telles qu'il a fini par entrer dans la bataille lui aussi.
J'ai rêvé ou vous avez prononcé le mot indépendance ?
Non, j'ai prononcé le mot indépendance.
Alors quand un président de la République dit « je ferai en sorte que justice soit ta-ta-ta », du coup, il ne devrait pas se mêler de la justice ?
Vous avez parfaitement raison. Un président de la République, en théorie, n'a pas à dire ça. Il est parfois surprenant et parfois même choquant qu'à l'occasion de telle ou telle réforme, on entende le président de la République dire je ferai ceci, je ferai cela. Du point de vue de la Constitution, il n'a pas les pouvoirs pour le dire. Et peut-être c'est ce qui lui fait perdre sa qualité d'arbitre, justement, des conflits nationaux et de recours en cas de problème. C'est comme ça qu'avait été pensé le président au départ.
Ces petits bateaux sont à réécouter sur franceinter.fr. Julien Dumont, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 19h30. Et pour l'heure, nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.